Vous êtes bien à l'écoute de RFI, les 21h à Paris, 20h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous. Ne pas oublier 80 ans après l'horreur, ce qu'il s'est passé dans les camps de la mort nazie, cérémonie de commémoration aujourd'hui à l'occasion du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, symbole de l'Holocauste. Israël annonce la mort de 8 des otages libérables dans la première phase de l'accord de trêve avec le Hamas. Pas d'informations en revanche sur l'identité des otages décédés. On fait le point dans un instant. En Corée du Sud, c'est un deuxième procès qui se profile pour le président déchu Yoon Suk-yeol. Il a été inculpé hier pour inculpation contre l'État. Et puis en France, les trafiquants de cocaïne ne cessent de s'adapter pour faire entrer la drogue dans le pays. C'était le plus vaste camp de la mort du régime nazi. L'Europe a commémoré ce lundi les 80 ans de la libération d'Auschwitz par l'armée rouge de l'URSS. Plus d'un million de personnes, la plupart des juifs, ont été tués dans ce camp durant la Seconde Guerre mondiale pour manipuler les corps. Une fois morts, les Allemands avaient constitué des groupes parmi les déportés, des groupes qui étaient chargés de faire disparaître ces cadavres, les Sonderkommando. Roger Feitzingberg publie aujourd'hui les carnets de son père, l'un des seuls survivants de ces commandos. Écoutez.
Les Sonderkommando étaient amenés à disparaître régulièrement. Les Allemands assassinaient les membres des Sonderkommando pour qu'ils ne puissent pas survivre pour raconter. Parce qu'ils étaient les témoins directs de tout ce qui se passait. Donc les Allemands étaient très sensibles à cette question de faire disparaître les témoins. Mon père a eu cette chance d'être un des membres de Sonderkommando. Il y en a eu d'autres. Qui reste en vie, et qui reste en vie pendant 18 mois jusqu'au bout des Sonderkommando. Et à la fin, quand les Allemands ont senti le vent de la défaite se rapprocher, ils ont commencé à mettre à bas les crématoires pour qu'on ne retrouve plus de traces, et les crématoires ont été détruits sauf l'un d'entre eux. Et puis, ils ont recherché tous les membres survivants des Sonderkommando pour les faire disparaître un à un.
Roger Feinzelberg, invité d'Anne Kantner ce midi sur RFI. Une cinquantaine de survivants ont assisté aux commémorations aujourd'hui devant l'entrée du camp d'Auschwitz, aux côtés des chefs d'État présents, notamment le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz ou encore le roi britannique Charles III. Au Proche-Orient, cette file de déplacés qui remonte vers le nord de la bande de Gaza, 300 000 personnes auraient regagné le nord de l'enclave palestinienne. Ravagée par la guerre, selon les chiffres du gouvernement local aux mains du Hamas. Depuis l'ouverture du passage ce lundi matin, un flot ininterrompu de familles chargées de bagages marche vers le nord du territoire. Le retour des civils a été rendu possible par un accord trouvé in extremis hier soir, alors que la fragile mécanique de cessez-le-feu menaçait de se gripper. De son côté, Israël a annoncé aujourd'hui que 8 des otages qui doivent être libérés dans la première phase de trêve sont décédées. Pour le moment, 7 femmes ont été relâchées, 3 civils et 4 soldats. À Jérusalem, les précisions de Sami Boukhalifa.
Lors de cette première phase de cessez-le-feu, Israël et le Hamas ont convenu de la libération de 33 des 98 otages israéliens civils et militaires toujours à Gaza. Ce week-end, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a accusé le Hamas de violer l'accord de trêve et a exigé que le groupe armé palestinien lui transmette une liste recensant les Israéliens morts et vivants qu'il détient dans l'enclave palestinienne. Le Hamas a satisfait les demandes israéliennes et a fourni une liste. Est-elle nominative ou pas? L'information n'a pas filtré. Mais on le sait désormais, sur les 33 otages libérables, 8 ont perdu la vie, 7 ont été libérés, il reste donc 18 otages en vie, et dont la libération se déroule sur plusieurs semaines. Elle a débuté le 19 janvier et doit s'achever fin février, début mars. Parmi ces otages figure la famille Bibas, 2 enfants en bas âge et leur mère. Les Israéliens prient de toutes leurs forces pour qu'ils soient toujours en vie, mais le Hamas a annoncé leur mort il y a plus d'un an déjà, tués, selon lui, dans une frappe aérienne israélienne. Leur père, également otage, était apparu dans une vidéo en pleurs et supplie Benjamin Netanyahou de conclure un accord avec le Hamas afin de permettre que sa femme et ses enfants soient rapatriés et enterrés en Israël. Sami Boukhalifa, Jérusalem, RFI.
Et ce soir, le djihad islamique allié du Hamas à Gaza a diffusé une vidéo d'Arbel Yehoud, cette civile israélienne de 29 ans qui doit être libérée jeudi. L'enregistrement dure une minute. On y voit la jeune femme qui apparaît visiblement éprouvée, vêtue d'un t-shirt sur un fond vert. La Syrie salue la décision de l'Union européenne visant à assouplir les sanctions. Les 27 se sont accordés ce lundi sur une feuille de route pour desserrer les sanctions imposées au régime de Bachar al-Assad. Ces mesures ont impacté des pans entiers de l'économie syrienne durant les années de guerre civile. Le chef de la diplomatie syrienne s'est réjoui aujourd'hui de la suspension de ces sanctions pendant un an en vue de leur levée définitive. L'ONU est très inquiète de la situation à Goma, dans l'est de la RDC. La situation humanitaire y est extrêmement inquiétante, avec un nouveau seuil de violence atteint, avec des zones de combat actifs dans tous les quartiers de la ville. Ce sont les mots du coordinateur humanitaire de l'ONU pour la RDC. Les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise, tentent de prendre le contrôle de la capitale du Nord Kivu. Les affrontements se poursuivent avec les FARDC. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tiendra mardi à la mi-journée une session d'urgence sur cette crise. En Corée du Sud, le président destitué Yoon Suk-yeol devra faire face au juge. Il a été inculpé hier pour insurrection contre l'État par les procureurs sud-coréens. C'est le deuxième procès qui s'ouvre pour le chef d'État, en plus de celui en destitution par la Cour constitutionnelle, après que le Parlement a voté en décembre la suspension de sa fonction. Des poursuites qui semblent mal engagées pour le président. Célio Fioretti.
Un double procès et plusieurs centaines de pages d'un dossier historique. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol doit dans un premier temps se défendre face aux juges de la Cour constitutionnelle qui doivent statuer sur sa destitution. Un procès dont l'issue ne semble pas favorable pour le président, estime Yoon Bok-nam, avocat.
Il fait aujourd'hui peu de doute que la déclaration de la loi martiale par le président était contraire à plusieurs articles de la Constitution. Le pays n'était pas en état d'urgence nationale et le Parlement n'a pas été consulté avant cette décision. Cela pourrait très facilement permettre au juge de le destituer officiellement.
Désormais inculpé pour insurrection contre l'État, le président devra aussi comparaître au pénal dans les prochaines semaines. Pour Yoon Bok-nam, même si le président peut se défendre, l'issue lui paraît aussi défavorable.
Le président va essayer de montrer qu'il ne souhaitait pas de violence pour diminuer la gravité du crime. Mais le fait que d'autres personnes impliquées dans la loi martiale ont déjà été reconnues responsables laisse peu d'espoir pour le président Yoon d'échapper à une condamnation.
En Corée du Sud, le crime d'insurrection est passible de la peine de mort ou de l'emprisonnement à perpétuité. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
La demande de cocaïne n'a jamais été aussi forte en France, avec plus d'un million de consommateurs. C'est l'une des conclusions du dernier rapport de l'OFDT. L'Observatoire français des drogues et tendances addictives. Les trois quarts des saisies de cocaïne concernent des cargaisons arrivées dans l'Hexagone par bateau. Le port du Havre, notamment, est présenté comme l'une des portes d'entrée de la drogue en Europe. Mais les méthodes d'approvisionnement ne cessent d'évoluer. Laurent Lagnel est analyste à l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie.
Les trafiquants, effectivement, s'adaptent relativement rapidement lorsque les stratégies des forces de l'ordre deviennent un peu trop efficaces. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec les ports en ce moment, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'on saisit des quantités faramineuses de cocaïne dans les ports européens. En 2023, on estime à 413 tonnes, sachant que l'année précédente, elles étaient de 323. Mais ce qu'on constate plus récemment, disons à partir de 2024, c'est une diversification donc des moyens d'introduction de la cocaïne en Europe, en utilisant moins les grands ports européens comme Anvers, Rotterdam, Hambourg ou même Le Havre en France, et des stratégies alternatives, des ports moins importants, moins repérés, qui ne sont pas encore organisés pour saisir ou inspecter tout le trafic qui leur arrive. On s'aperçoit aussi que les trafiquants cachent la cocaïne de manière chimique dans des produits comme du plastique, par exemple. La cocaïne est ainsi très difficilement détectable lorsqu'elle arrive dans les ports. Ensuite, cette cocaïne-là se retrouve dans des laboratoires en Europe qui la transforment dans le produit fini qui sera vendu aux consommateurs.
Des propos recueillis par Marie Casadebé. Dans l'ouest de la France, pas d'accalmie en vue. Les inondations se poursuivent, des pluies provoquées par la dépression Herminia. Les cours d'eau ont atteint des niveaux sans précédent depuis 40 ans, notamment en Ille-et-Vilaine, en Bretagne.